Voilà, on va gagner quelques secondes puisque le texte que je voulais vous lire en introduction a déjà été lu par Roland au début du culte. Mais ce matin, vous voyez le thème devant vous. Je vais vous parler souvent de la porte. Et j'ai été intéressé d'apprendre que le mot « porte » en hébreu se dit « delet » et dont la racine du mot signifie « humilité, pauvreté ». Et je me disais, c'est fantastique comme ça correspond bien à Christ. Lorsque Christ dit lui-même « je suis la porte », « je suis la porte de la bergerie ». Et pour entrer dans une bergerie, il faut certainement courber la tête. Ce n'est pas une porte de grange, c'est une petite porte où il faut rentrer, se baisser pour pouvoir y avoir accès. Il est venu dans la pauvreté. Je relisais encore ce matin Ésaïe 53, où il a dit qu'il n'avait rien pour plaire, rien pour attirer les regards. C'est un homme de souffrance, il a connu la souffrance, accepté la souffrance. Nous voyons son arrivée triomphale à Jérusalem, assis sur le dos d'un ânon. De nouveau, rien pour essayer d'épater la galerie. Alors, on a lu ce texte de Pâques, mais avant de parler de cette Pâques-là, on ne peut pas en parler sans la mettre en relation avec la première Pâque qui va marquer la libération du peuple juif de l'esclavage. Les Juifs ont été soumis aux Égyptiens pendant 400 ans. Il n'y avait aucune possibilité pour eux de s'en sortir par leurs propres moyens. Moïse a bien essayé de tenter le coup, de prendre le commandement en tuant un Égyptien. Et on voit que ça a eu comme conséquence, qu'il a dû fuir pendant 40 ans. Donc l'espoir qu'ils auraient pu mettre en un homme a été est tombé. Le peuple aurait pu se révolter. Peut-être aurait-il pu, si c'était aujourd'hui, mettre des gilets jaunes. Aucune chance pour eux. Le rapport de force était vraiment inégal. Alors Dieu va libérer son peuple, non pas en utilisant une stratégie humaine, mais par des moyens qui dépassent l'entendement humain. Lorsque le moment était arrivé pour les lépreux de quitter l'Égypte, à retrouver leur liberté, Dieu leur a prescrit, vous vous souvenez, de marquer les linteaux de la porte. Voilà, une porte. Alors, sur les linteaux, ils devaient mettre le sang de l'agneau pour être sous la protection. Et le sacrifice de cet agneau, c'était le rituel de la libération. Et les trois marques de sang avaient une signification. Alors vous trouverez toute l'histoire de cette Pâque dans Exode 12. Et je viens de lire ces jours toute une réflexion d'une revue théologique sur la porte. C'est ce qui m'a donné l'idée de creuser aussi un peu et d'aller dans cette direction. Et c'est incroyable toutes les illustrations qu'on peut en tirer. Un rédacteur d'un article écrit ceci par rapport à cette porte qui devait protéger le peuple juif. Alors, selon la pensée juive, le poteau de droite, c'est celui qui ouvre sur la voie de la générosité et de l'amour. Et encore aujourd'hui, je crois que les Juifs doivent mettre sur le côté droit de leur porte, pendant la Pâque, un symbole qui marque la générosité et l'amour. Le poteau de gauche, c'est celui de la rigueur et de la justice. Et nous voyons que les deux piliers, pour se tenir debout, ils ne peuvent pas se tenir debout tout seuls. Il faut une poutre transversale qui les maintient. Et cette poutre transversale, eh bien, ça représente Dieu, ça représente Jésus-Christ qui fait ainsi tenir debout l'édifice. Alors nous voyons que la justice et l'amour de Dieu vont vraiment de pair. Dieu est un Dieu juste, mais il est aussi un Dieu d'amour. Mais pour répondre à cette justice parfaite de Dieu, eh bien, il fallait trouver un moyen, et c'est là qu'intervient Jésus-Christ. Il nous a dit dans Romains 3, 22, « Il n'y a point de distinction, car tout le monde, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu, dans sa bonté, les rend justes à ses yeux gratuitement par Jésus-Christ qui les délivre du péché. » Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Amour, vérité. Et pour ceux qui étaient au culte inter-église avec l'Église catholique et réformée à la Sarah, se rappellent très certainement ce petit exercice qu'a fait le pasteur Badou pour souligner cette dimension. Il a dit « Regardez comment les jeunes se saluent aujourd'hui. Comme ça, comme ça. » Hein? Ce qui représente l'amour et la vérité. Et on voit que l'amour va de pair avec la vérité. Et alors Jésus, j'ai parlé de cette poutre transversale, c'est lui qui fait tenir tout l'édifice debout. Voilà, un bel édifice. Il nous est dit dans Éphésiens 2, 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ est en lui-même la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et je me disais, mais quel privilège nous avons d'être considérés comme la maison de Dieu. On fait partie de ce temple, on est une pierre de cet édifice. Alors, d'accueillir Dieu en nous, nous responsabilise aussi à agir comme Jésus-Christ, c'est-à-dire avec amour à l'égard des autres. Et j'ai lu une citation dans un hôpital qui a été créé par des missionnaires au Pakistan en 1893. Et sur la porte, ils ont écrit ceci. Partout, il y a une porte qui peut s'ouvrir grâce à l'amour, à la sympathie et à l'engagement concret. La porte, ça souligne bien cet aspect de passage. Elle s'ouvre sur quelque chose de nouveau. On ne peut pas se tenir des deux côtés de la porte, il faut choisir. Il faut aller soit d'un côté, soit de l'autre. Il y a tout l'aspect aussi du respect. Lorsque je vais chez quelqu'un, je ne rentre pas comme ça, tambour battant, mais je frappe. Et j'attends qu'on m'invite, que quelqu'un vienne ouvrir la porte. Dans Apocalypse 3, verset 20, il est dit ceci, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Pâques, c'est quoi? Je vais prendre l'exemple de mon petit-fils, mais j'ai l'impression que je deviens comme Colombo. Chaque fois qu'il fait un film, il essaye d'introduire à quelque part « Ma femme m'a dit ». Alors moi, c'est mon petit-fils. J'ai posé cette question à ce petit-fils, mais il y a très longtemps, parce que maintenant, il a grandi, il est là. Il avait 5 ans à l'époque. On était aux environs de Pâques. Je lui ai posé cette question. Pâques, c'est quoi? Alors, je lui ai dit, écoute-moi bien, Thibauté. Ce que je vais te dire, c'est un mot qui est très compliqué. Compliqué pour un enfant de ton âge. Mais c'est important que tu t'en souviennes, parce que c'est capital. Pâques, c'est la résurrection de Jésus. Alors, bien sûr, je lui ai expliqué ce que ça signifiait. Mais je lui ai dit, c'est un terme qui vaut la peine de retenir. Alors, mon petit-fils prend son vélo, il part, et je le voyais partir le long de la ruelle pour aller chez lui, et tout au long que je pouvais le voir, je l'entendais pédaler et dire « Pâques, c'est la résurrection de Jésus, Pâques, c'est la résurrection de Jésus. » Il voulait être sûr de s'en souvenir. Il arrive à la maison, « Papa, c'est quoi Pâques ? C'est la résurrection de Jésus. » J'ai posé la question à mon beau-fils il y a 2 jours pour savoir s'il se souvenait de ça, mais il s'en souvient. Donc ça l'a marqué. Pâques, c'est la résurrection de Jésus. Et cette résurrection, elle change tout si on y croit. Et ça vaut la peine d'y croire. Sinon, alors, on est comme Paul le dit, si c'est seulement dans cette vie que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Mais en réalité, le Christ est revenu de la mort à la vie en donnant ainsi la garantie que ceux qui sont morts reviendront à la vie. Le jour de Pâques, alors là on va voir un autre slide, la porte du tombeau s'est ouverte miraculeusement. Le Christ en est sorti vivant. Cette porte ouverte nous donne la liberté. Mais la liberté ne signifie pas encore que nous avons atteint la destination. Le pays promis est devant. Il reste à conquérir. Il y a toute une marche qui nous y mène avec des moments de joie, des moments de fatigue, de maladie, d'épreuves de tous ordres. Mais la grande nouvelle de Pâques, c'est que nous ne sommes plus jamais seuls. Jésus est toujours présent et il nous propose de nous décharger sur lui. Et là, j'ai besoin de 2 petits copains qui vont venir m'aider. Alors, je ne sais pas si Samuel et Yanis sont d'accord de venir vers moi, puis ils sont les plus proches. Alors, je ne sais pas si Samuel, toi t'es costaud, tu vas pas emporter ce sac. Ça va, c'est pas trop lourd. Tu peux faire quelques pas là, puis tu reviens vers moi. Voilà. Ok, tu reviens ici. Maintenant, je vais demander à Yanis qui va ouvrir. Non, là, garde ton sac sur les épaules. Yanis, tu vas ouvrir le sac. Ouh là là. Et maintenant, tu vas sortir une chose après l'autre qu'il y a dans ce sac. Alors, fais attention, parce que c'est quand même lourd. C'est lourd. Qu'est-ce qui est écrit sur la pierre?
Souffrance.
Souffrance. Alors, on va poser notre souffrance au pied de la croix. Là. Parfait. Est-ce qu'il y a encore quelque chose? Une autre.
Solitude.
Solitude. Alors on va poser notre solitude à la croix.
J'ai plus rien, c'est plus léger.
Soucis.
La même chose, on va déposer nos soucis à la croix. Maintenant, c'est vide et c'est beaucoup plus facile de marcher avec un sac qui est moins lourd. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. On peut lire de 1 Pierre 5, 7. Alors, ouvrons-lui, et ça, on va voir le dernier slide, les portes de notre cœur, afin que le Christ illumine notre présence en ce jour de Pâques et dans les jours qui viennent. Amen.
Merci beaucoup.